Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, c'est la dernière ligne droite à Cannes où Marine n'est plus, hein, si bien qu'elle n'a pu voir le dernier film de David Cronenberg qui est en salle depuis le 25 mai. Mais du Festival de Cannes, nous allons quand même parler avec le dernier film d'Arnaud Desplechin qui est en compétition, puis de deux films hors compétition, le Top Gun avec Tom Cruise et puis Don Juan de Serge Bozon. On aura aussi l'occasion de jouer à un blind test sonore pour deviner à nouveau cinq titres de films ayant remporté la Palme d'Or. Mais toi Manu, tu ne vas pas nous parler d'un film cannois, mais un bon film quand même.
Un très bon film d'animation japonaise qui s'appelle Junkhead et qui d'ailleurs date bizarrement de 2017 et qui ne sort qu'aujourd'hui.
Melville Poupeau et Marion Cotillard sont frères et sœurs et se détestent dans le dernier film d'Arnaud Desplechin, donc qui est en compétition au Festival de Cannes. Nous en parlons maintenant.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
Ma chérie, où est-ce qu'il est, ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Est-ce que tu le sais, au moins?
Je pardonnerai jamais à Louis.
Alice est actrice, donc forcément névrosée. Louis, son frère, est poète, donc forcément excessif. Cela fait donc 20 ans qu'ils se détestent, ne se parlent plus. Louis a écrit des livres dans lesquels il dresse un portrait sans concession de sa famille. Et Alice a tenté par des procès de les faire interdire sans succès. À l'occasion d'un grave accident, le frère et la sœur se retrouvent au chevet de leurs parents, sans toutefois être décidés à faire la paix.
Alice, tout était parti d'un mauvais pied. Le gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance.
Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place.
Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur.
Je dois jouer tous les soirs. J'ai jamais autant souffert.
Arnaud Desplechin poursuit avec masochisme son autopsie des rapports intrafamiliaux sanglants, commencé et poursuivi avec un conte de Noël, Roi et Reine, les fantômes d'Ismaël et plus encore. Chez Desplechin, le personnage de père s'appelle toujours Abel, Abel qui dans la Bible est le premier humain à mourir. Chez Desplechin, les gens se détestent mais disent tout haut et clairement leur détestation. Chez Desplechin, on se reconnaît toujours un peu dans ce miroir distordu et déformant qu'il tend à nous spectateurs. Frères et sœurs se posent en œuvre profondément théâtrale, dans laquelle d'ailleurs le théâtre dont vit Lucie est un élément central et qui peut sembler caricatural à qui ne connaît pas le langage de Desplechin. Ces dialogues ont un ton particulier, très articulé et en même temps très sautillant. Il y a un vrai plaisir de la langue, un plaisir si manifeste dans la diction des comédiens que l'on ne peut qu'entrer dans la danse avec eux. Et ces dialogues si écrits, si châtiés, si théâtraux peuvent sembler, eh bien, selon les comédiens qui les disent, d'une beauté folle ou alors d'une prétention absolue. Si dans Trois souvenirs de ma jeunesse, ce récital était des plus agaçants, dans Frères et Sœurs, en revanche, les mots sonnent forts et justes. Ici, ils sont prononcés par un casting des plus hétéroclites, le plus diversifié sans doute que Desplechin ait jamais mis en scène, dans les rôles des frères et sœurs ennemis Marion Cotillard, impériale, monstrueuse, bouleversante, et Melville Poupeau, rugissant sur les nerfs, entouré de Patrick Timsit, de Benjamin Sixou et de la merveilleuse Goldshifteh Farahani. Il fallait en effet de second rôle solaire pour entourer l'infernal duo central. C'est chose faite avec ces nouveaux venus dans l'univers du cinéaste. Et cette fois, eh bien, ça n'est pas le Roubaix interlope de Roubaix une lumière que Desplechin filme, mais plutôt un Roubaix cossu, le monde de la vieille bourgeoisie dont les rejetons sont des artistes à succès qui ont décidé de se haïr. Alors avis à ceux pour qui un film doit être un enchaînement de twists et de révélations, on ne connaîtra jamais vraiment les racines de cette rancœur qui confine à la folie. Les digressions finales sont, il est vrai, un peu longuettes, mais le film arrive admirablement à nous placer de façon volontaire dans cette position inconfortable de voyeur face à ces guerres fraternelles rondement menées et mise en scène.
Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée.
Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer ?
Réparer quoi ?
Mais ma grande sœur ! Arrêtez sa haine !
Nous parlions de Frères et Sœurs, film d'Arnaud Desplechin en compétition au Festival de Cannes, qui est actuellement dans les salles. Quentin Tarantino avait résumé Top Gun comme l'histoire d'un mec qui lutte contre sa propre homosexualité. Qu'en est-il de la suite du film de Tony Scott qui était hors compétition à Cannes ? Nous en parlons maintenant.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur ?
Ça y est, après des années et des années de gestation, de faux espoirs et de faux départs, la suite de Top Gun, le carton monstrueux de Tony Scott et plus gros succès de l'année 86, a enfin accouché de cette suite qui a carrément les honneurs d'une programmation, hors compétition certes, mais programmation quand même, au Festival de Cannes 2022. Alors, programmation quand même étonnante, il faut bien se le dire, tant l'univers de Top Gun n'a pas grand-chose à voir avec la ligne de conduite habituelle du dit festival. Outre le fait qu'on imagine que le festival n'en est pas un événement cinématographique populaire prêt pour aider à la relance de la fréquentation des salles, ben en berne à cause de vous savez quoi depuis plus de 2 ans, Top Gun est pourtant très loin de l'image autorisante qu'on se fait de l'événement. C'est même tout le contraire, tant le film tire depuis presque maintenant 40 ans une réputation de divertissement certes spectaculaire, mais horriblement idiot, ouvertement militaire, et instrument de propagande d'une politique reaganienne alors au pic de sa popularité en pleine guerre froide. C'est justement ironique que cette suite sorte maintenant, alors que la Russie est plus que jamais redevenue la bête noire des États-Unis et qui crée malgré tout des attentes quant à son fond. Top Gun Maverick va-t-il être lui aussi un baromètre politique à sa façon de notre époque ? Va-t-il être à nouveau l'étendard d'une armée fière d'elle et qui a créé une vocation de pilote chez bon nombre de jeunes exaltés ? Va-t-il lui aussi se faire le chantre d'une homosexualité refoulée qui hurle son coming out par tous les symboles possibles cachés à l'écran ? Est-ce que Joseph Kaczynski s'inscrira lui aussi dans la comparaison qui fut faite entre Tony Scott et Leni Riefenstahl ? Ou bien va-t-il être, au-delà de toutes ces considérations, tout simplement un nouveau maître étalon de l'efficacité du cinéma d'action américain, comme le fut l'original en son temps grâce au savoir-faire des producteurs démiurges Don Simpson et Jerry Bruckheimer ?
Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kaczynski, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi, je ne sais pas.
Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur.
Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions.
Déjà, si on regarde ou on revoit attentivement et surtout honnêtement le premier film, il est nullement question de propagande ou de discours belliciste enragé. Tout au plus, si vous n'aimez pas l'ambiance vestiaire ou amitié virile, comme pour la suite, il faudra passer son chemin. Et comme dans cette suite, d'ailleurs, l'ennemi qui fait son entrée dans le troisième acte n'est pas directement nommé, et bien malin celui qui comprendra qui se cache derrière cet état voyou qui décide de faire des manœuvres dangereuses et ainsi de violer des traités de paix. Si l'armée de l'air a su les utiliser comme un magnifique tract, les Top Gun, c'est surtout des films simples au service du grand spectacle, et c'est très probablement ce qui en font des vecteurs de gros succès. Top Gun Maverick reprend là où on avait laissé les principaux protagonistes du premier, enfin ceux qui avaient survécu. Après avoir été le meilleur pilote de chasse de la marine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. A ce titre, la scène d'introduction qui nous propulse à Mach 10 annonce clairement la couleur sur tout ce qui nous attend. Alors Maverick refuse de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes pilotes de l'école Top Gun pour une mission spéciale sûr d'amener à l'abattoir tous les pilotes engagés. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, le fils de son défunt ami et navigateur Goose, qui lui en veut à mort pour ce qui est arrivé à son géniteur. Maverick va donc devoir former ces jeunes aussi innocents et passionnés que de l'été sa promo à lui en 1986 et s'assurer que tout le monde rentre en un seul morceau alors que l'administration n'a aucune confiance en lui. Par-dessus tout, il va devoir affronter ses démons, faire face au présent et peut-être envisager un avenir avec la belle Penny Benjamin, mais enfin s'il rentre entier ou s'il rentre tout court.
On va devoir se battre comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui.
Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais-moi confiance.
Mon père avait confiance en vous.
Je ferai pas la même erreur.
Le premier gros point fort de cette suite, et on va être très franc, c'est de quasiment tout faire mieux que le film d'origine. Si les grandes lignes sont bien évidemment cousues de fil blanc, il n'empêche que tout cela marche, car cette fois, il y a une vraie menace en contrepoint. Cette menace, dont l'annihilation passe par un plan qui sera familier aux fans de Star Wars et d'un nouvel espoir, montre que les scénaristes se sont rappelés ce qui a motivé à l'époque Jerry Bruckheimer à produire le premier, à savoir faire un Star Wars sur Terre avec des avions de chasse en guise de vaisseau. Le second gros point fort est tout simplement Tom Cruise. Conscient qu'il a atteint ses limites, il a décidé de livrer ni plus ni moins qu'un énorme baroud d'honneur, commentant sa carrière, son image, sa place dans l'industrie et son héritage de manière autobiographique à la manière de Stallone dans ses Rocky. Pour qui a su être sensible à l'intégrité qui a accompagné sa carrière et sa défense du grand écran, l'émotion vous mangera tout cru lorsqu'il est question de lâcher prise. Et pour finir, Top Gun Maverick est monstrueusement spectaculaire et on ne vous conseille que trop d'aller le voir en IMAX. On aura une dernière pensée pour le producteur Don Simpson, car ça fait quelque chose de revoir son nom en ouverture d'un film d'action, même si on n'est plus dans les années 90, et bien sûr à Tony Scott, à qui le film est dédié. Tom, encore une fois, un grand merci.
Top Gun Maverick est en salle depuis le 25 mai. Avant de parler d'un autre film qui était présenté à Cannes, Don Juan de Serge Bozon, on fait une petite pause avec le jeu du blind test et nous devons trouver 5 titres de films qui ont remporté une palme d'or à Cannes.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Voici le premier extrait de ce blind test.
Ça me fait penser au... Au regretté Robert Smithson. Smithson qui, dans les années 60 et 70, s'est rendu célèbre avec ses compositions. Alliant photographie et intervention dans le paysage. Il utilisait des matériaux, tels que la terre, les pierres, les feuilles, et les combinait avec d'autres matériaux tels que...
Montenichon.
Nous sommes désolés, mais il souffre du syndrome de la Tourette.
D'autres matériaux tels que...
De la Tourette?
Oui.
Ok. Continuez.
Merci.
Voilà, c'est trouvé. La séquence est beaucoup plus longue.
Et pourtant, je n'ai pas vu le film, mais c'est assez reconnaissable si on connaît un peu le sujet. Et c'est donc The Square.
Oui, The Square, le fantastique film à très beau souvenir, parce que je l'avais vu à Cannes, de Ruben Östlund, Palme d'Or au Festival de Cannes 2017, où le président du jury était Pedro Almodovar. Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, Christian roule en voiture électrique, soutient les grandes causes et sa prochaine exposition est intitulé The Square et invite à l'altruisme. Mais quand Christian se fait voler son téléphone portable, on voit que l'art fait un écart avec la vie. 351 000 entrées en France. Deuxième extrait de ce blind test consacré aux palmes d'or du Festival de Cannes.
Je n'ai jamais manqué un jour de travail.
Merde.
J'ai donné à la quête tous les dimanches.
Tu sais, Jack, j'ai jamais rien voulu d'autre pour toi. T'apprendre à être fort et grandir et devenir ton propre patron. Je sais pas, peut-être que j'ai été dur avec toi. Ça me rend pas fier.
Je suis aussi mauvais que toi. Je suis plus comme toi que comme elle.
C'est trouvé.
Et c'est Tree of Life de Terrence Malick.
Oui, avec la voix française de Brad Pitt. Palme d'or au Festival de Cannes 2011. Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante qui lui donne foi en la vie. D'ailleurs, cette séquence illustre quand même bien cette position. La naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour inconditionnel alors qu'il affronte l'individualisme forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique événement vient troubler cet équilibre précaire. 858 000 entrées en France pour ce film de Terrence Malick, diversement apprécié. Troisième extrait de ce blind test consacré aux Palmes d'Or du Festival de Cannes.
Je suis un professionnel chez les amateurs et un amateur chez les professionnels. Voilà. La vie la plus misérable vaut mieux qu'une existence facile, bien à l'abri dans un monde organisé où tout est pratique, fabriqué. Marcello, je ne peux être que ton ami et il m'est à peu près impossible de te conseiller. Mais si tu veux que je t'aide à changer de situation, je peux te faire rencontrer des tas de gens, un éditeur par exemple, qui saurait te comprendre, chez qui tu aurais assez de loisirs pour faire ce qui t'intéresse. Au lieu de collaborer sans joie pour tes petites feuilles plus ou moins fascistes. Veux-tu y réfléchir? Nous en reparlerons. Mmh.
C'est trouvé grâce au petit indice.
Oui, au petit Marcello, en fait. La Dolce Vita de Fellini, donc Palme d'Or 1960.
Oui, c'est ça. Construit comme une succession de petits épisodes, la Dolce Vita suit Marcello Rubini, un journaliste de Press People, interprété par Marcello Mastroianni, et au fil d'une semaine de vie mondaine à Rome, dans une recherche infructueuse de l'amour et du bonheur. 2,9 millions d'entrées en France depuis qu'il est sorti en 1960. Hein. C'est pas seulement lorsqu'il a été distribué à ce moment-là, évidemment. Quatrième extrait de ce blind test.
Bon, c'est un square situé en centre-ville. D'accord ? Et il y a des escaliers aux quatre coins et des bancs tout autour.
Je vois.
Et il est autour de midi. C'est donc l'heure du déjeuner pour tous ceux qui travaillent dans les bureaux aux alentours. Il y a donc des gens qui marchent, qui parlent et qui déjeunent. C'est bondé.
Évidemment. Continue, Stan.
Ok. Deux personnes n'arrêtent pas de marcher en tournant en rond au milieu de la foule.
D'accord.
On ignore s'ils vont s'asseoir ou je sais pas quoi. Ils sont convaincus qu'on ne peut pas les enregistrer parce qu'ils sont au milieu de la foule et qu'ils bougent tout le temps. Pourtant, ils sont la cible. Et notre mission consiste à enregistrer tout ce qu'ils disent. Comment fais-tu ?
Ah, alors, j'ai un petit
doute.
Enregistrer tout ce qu'ils disent. Alors, film des années 70 ?
Oui, tout à fait, avec un grand réalisateur.
C'est pas Coppola, c'est pas oui. Conversation secrète ?
Oui, c'est ça, c'est ça. Palme d'Or du Festival de Cannes 1974.
Je voulais dire celui-là, mais j'étais vraiment pas sûr qu'il ait eu la Palme d'Or. Enfin, je m'en souvenais plus.
Et ça fait deux Palmes d'Or, parce que lors du dernier blind test, donc dans la précédente émission, on avait parlé d'Apocalypse Now. Spécialiste de la filature, Harry Cole est engagé pour suivre un couple et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, eh bien Cole écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agit-il d'un code secret ? La question est posée. 234 000 entrées en France, preuve que la Palme d'Or ne booste pas toujours les entrées. Dernier extrait de ce blind test consacré aux Palmes d'Or du Festival de Cannes.
Mais tu fais quoi ? Tu avais laissé l'eau couler.
Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es complètement folle ? C'est une blague ?
Pardon ?
C'est une plaisanterie ou... Ça se veut une plaisanterie ou quoi ?
Quelle plaisanterie ? Je ne comprends rien. Sur quel ton tu me parles ? Qu'est-ce qui te prend ?
Écoute, arrête ce jeu. C'est pas drôle.
Mais quel jeu, bon Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est trouvé, c'était facile avec les voix notamment et puis ce qui se dit.
Oui, ce qui se dit aussi. Hein. C'est donc Amour
de Michael Haneke. Palme d'Or 2012. Georges et Anne sont octogénaires. Ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l'étranger avec sa famille. Et puis un jour, eh bien, Anne est victime d'une petite attaque cérébrale. Et lorsqu'elle sort de l'hôpital et revient chez elle, elle est hémiplégique. L'amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve. Et là, c'était une des épreuves. 742 000 entrées en France pour ce film de Michael Haneke. Oscar aussi du meilleur film, et puis il a fait le grand chelem des Césars avec le meilleur film, meilleure réalisation, les deux interprétations, masculine, féminine, et puis le scénario, c'est vraiment tout ce qu'un réalisateur peut attendre, et un producteur évidemment pour un film. Voilà, sachant que Michael Haneke est un habitué du Festival de Cannes, mais qu'il n'a pas bien remporté que des palmes.
This is Cinerama.
En 2022, Don Juan n'est plus l'homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme, celle qui l'a abandonnée. Don Juan est un film de Serge Bozon avec Virginie Efirattar, présenté dans la section Cannes, première à Cannes. Et cette section, ça veut dire, on n'avait plus de place, on vous met ici.
This is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
C'est irrésistible, en effet.
Ma femme que j'aime m'a quitté. Sans un mot.
Don Juan est un acteur qui s'est laissé dépasser par le rôle qu'il joue. Il scrute les femmes qu'il croise en s'imaginant être elles. Il les scrute tant et si bien que sa promise, Julie, croit voir en lui le genre de séducteur qu'elle fuit à tout prix. C'est pourquoi elle le quitte le jour de leur mariage, laissant le jeune homme dévasté. Dès lors, toutes les femmes qu'il croise ont le visage de cette Julie qui l'a quittée. Une aubaine pour une comédienne, en l'occurrence ici Virginie Efira, qui incarne toutes les femmes de la vie de Tahar Rahim.
Quand une femme quitte un homme, c'est qu'elle ne l'aime plus.
C'est pas la découverte du siècle.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Serge Bozon, cinéaste iconoclaste qui excelle dans la fantaisie sérieuse, s'empare ici de Don Juan, comme il l'avait fait dernièrement avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dans Madame Hyde avec Isabelle Huppert. On s'attend toujours avec lui à une vraie proposition de cinéma. La promesse est tenue. Don Juan sera décliné ici sous forme d'opéra crépusculaire dans un scénario écrit à quatre mains avec Axel Rauppert. On nous propose une version moderne de Don Juan qui n'est plus un séducteur compulsif, mais un homme qui souffre, tandis que son ancienne amante, ni passive ni victime, réfléchit à revenir ou pas avec lui. Comme dans Annette de Léos Carax, les acteurs chantent pendant les prises en direct. Ce ne sont d'ailleurs ni l'un ni l'autre des chanteurs initialement. Passé le premier moment de surprise de comique involontaire, lorsque l'on voit Tahar Rahim pousser la chansonnette, eh bien la sauce prend, notamment grâce à Virginie Efira, qui elle est tout à fait à l'aise dans l'univers de Bozon et dans toutes les perruques qu'elle arbore dans le film. Le budget perruque étant assez conséquent. Belle idée également que de faire appel à Jenny Bess dans le rôle virevoltant de la metteuse en scène. Jenny Bess que l'on avait découverte très sombre en alter ego de Christine Angot dans le film Un amour impossible. On retrouve également Alain Chamfort en personnage inquiétant et fantomatique qui revient hanter Don Juan. Et puis, eh bien, détail qui n'en est pas un, Serge Bozon, dans le paysage du cinéma français, est l'un des rares cinéastes quinquagénaires, blancs, bourgeois, à inclure dans le casting de ses films beaucoup de comédiens d'origine maghrébine, mais sans que cela ne soit un sujet. Une véritable inclusivité assez salvatrice lorsque, à contrario, eh bien, énormément de films français présentent encore un casting intégralement blanc.
Don Juan de Serge Bozon est en salle depuis le 25 mai. Pour refermer cette page consacrée au Festival de Cannes, eh bien, on va se quitter avec un extrait musical. C'est la bande originale du film Missing qui a remporté la Palme. C'était quand ?
C'était le film de Costa Gavras, 182 ex aequo avec Yol.
Et donc, c'était composé par Vangelis, compositeur qui nous a quittés le 17 mai dernier. L'humanité décline dans Junkhead, film d'animation japonais avec des clones mutants. Et c'est toi, Menu, qui nous en parle.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
À l'heure du tout numérique, hein, où même un paysage naturel grandiose peut devenir parfois un fond vert par commodité, il est réconfortant de voir des petits génies capables de bricoler chez eux des films d'animation sans avoir recours à la technologie moderne. Alors c'est le cas de Junkhead, aberration jouissive venue du Japon, entièrement réalisée en stop motion par Takahide Hori. Il a fallu donc que 140 000 images, un décor et des personnages entièrement confectionnés à la main par leur créateur, le Réal, donc, hein, pour mener à terme un projet délirant qui a duré 7 ans, de 2010 à 2017, en sachant qu'au départ, il s'agissait d'un court-métrage. Véritable phénomène au Japon, hein, Junkhead a remporté un certain nombre de prix dans les festivals, dont le prix Satoshi Kon au Festival Fantasia de Montréal et la Cigogne d'or du meilleur film d'animation au Festival Fantastique de Strasbourg. Auréolé d'une excellente réputation, bah, il ne sort qu'aujourd'hui dans les salles françaises, ne serait-ce que pour ses prouesses visuelles. Il s'agit sans l'ombre d'un doute du film à ne pas manquer en ce moment si vous avez un désir ardent d'originalité. Une originalité qui ne se traduit pas d'emblée par son postulat de départ, hein, davantage un prétexte qu'un scénario finement élaboré avec une dramaturgie classique. Le récit est entièrement organisé autour des décors et des personnages. Le cinéaste dépeint un monde où l'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité, mais à force de manipulation génétique, elle a perdu la faculté de procréer et décline inexorablement. En mission pour percer les secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans la ville souterraine où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leur créateur. Alors, en 10 minutes à peine, les enjeux sont exposés, prétexte à un déchaînement visuel qui n'est pas sans rappeler le Mad Max Fury Road, mais un Mad Max miniature, moins attaché à son horizontalité, c'est-à-dire d'un trajet rectiligne de A vers B puis de B vers A, qu'à l'exploration d'un décor industriel labyrinthique peuplé de créatures inquiétantes. Le héros, Parton, un robot avec une âme, comparé à Dieu d'ailleurs à plusieurs reprises, ne cesse d'aller de l'avant, de mourir et de ressusciter constamment en affrontant les dangers les plus effroyables du monde d'en bas qui ne cesse de sombrer dans le chaos. Alors nous ne saurons quasiment rien de ce qui se passe à la surface, hormis une séquence très ironique qui semble nous dire que si tout va bien, l'ennui paraît inévitable dans un système ultra organisé, jusque dans un quotidien rythmé par les habitudes. Iconoclaste et constamment ludique, un Junkhead impressionne par sa capacité à surmonter les enjeux techniques et narratifs par la prolifération d'idées toujours soumises à un univers cohérent. Le design des monstres en latex inspiré des travaux de Geiger, les décors composés d'asphalte et de béton et les personnages sans yeux, parvenant miracle à être attachants, composent idéalement une vision du monde qui convoque aussi bien le cyberpunk de William Gibson, la culture underground urbaine, dont le cinéma de Tsukamoto, auteur de Tetsuo, la SF classique et certains mangas. Alors dans cette course effrénée dont la quête finit parfois par nous échapper et le message politique en creux brouillé, il est amusant d'entendre les figurines animées s'exprimer dans une langue imaginaire, un dialecte peuplé de borborygmes qui insuffle une étrangeté supplémentaire, se mariant très bien à l'atmosphère post-apo du métrage. Alors, dystopie menée à un rythme effréné, Junkhead déploie des trésors d'invention graphiques grâce à une mise en scène d'une très grande précision, alors tant d'un point de vue du montage que de la composition des plans, minutieusement élaborés comme dans les meilleures bandes dessinées. Alors, pour terminer, un avertissement, malgré le design charmant du robot, sorte de Casper métallique blanc, Junkhead est à déconseiller aux plus jeunes en raison de sa violence décomplexée, alors ne lésinant pas sur les plans gore et la profusion de sang versé. Il est logiquement interdit au moins de 12 ans. Et ultime plaisir, rester jusqu'au générique de fin qui est hallucinant, où défile quasiment à tous les postes, y compris les voix des personnages, le nom du réalisateur Takahide Hori, auteur complet de cette merveilleuse réussite. On doit avoir au moins une centaine de fois son nom qui revient. C'est très très curieux comme impression. Enfin,
Et je me souviens que tu avais aussi chroniqué. Alors, était-ce un réalisateur lituanien?
Lituanien, alors
qui avait tout fait aussi.
Qui avait tout fait aussi, mais alors il y avait le générique, il était très court. Alors, j'ai plus le titre. Ailleurs, je crois que ça s'appelait. Ailleurs, un dessin animé. Alors là, on avait le générique le plus court. Puisque là, c'était écrit, produit, réalisé, monté. Puis tout était en un seul bloc.
Un seul bloc, ouais. Voilà. Oui. Et encore, bah, voilà, le film d'animation, c'est l'exemple bien d'un cinéma qui peut être. Autoproduit et fait d'un seul homme.
Et puis fait à l'ancienne, quoi, ça fait encore un peu plaisir. Et puis surtout qu'il n'est pas nécessairement destiné aux enfants, ce qu'on a un peu tendance à oublier.
Junkhead est en salle depuis le 25 mai.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine. Il s'agira de clôturer Cannes, hein, puisqu'on connaîtra la nouvelle Palme d'Or. Sans doute qu'on parlera du dernier Cronenberg. Et puis toi, Manu, tu auras deux films.
Oui, La Ruche et Clara Sola.
À la semaine prochaine.